de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, en Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Anies Baswedan affirme que Jakarta reste le centre de l'économie. L'Indonésie et la Corée du Sud coopèrent pour construire des tours de balises et de balises. L'ambassade indonésienne à La Haye encourage l'autonomisation des féminines des acteurs des micro, petites et moyennes entreprises. Un tremblement de terre de magnitude 6,2 circule à Alaska, pas de potentiel de tsunami. 70 personnes tuées dans les combats kurdes ISIS en Syrie. Atikbut Canberra encourage l'internationalisation de l'Indonésien. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le gouverneur de la province de DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, a souligné que même si la région de la capitale de l'État, ou Ibu Kota Negara, IKN, a été désignée dans le Kalimantan de l'Est, la ville de Jakarta est toujours le centre de l'économie. C'est ce qu'a dit Anies Baswedan après avoir assisté à un dialogue à l'hôtel Claro Makassar, Sulawesi du Sud, samedi. Anies Baswedan a déclaré aux journalistes que même si la capitale nationale serait transférée à Kalimantan, Jakarta serait toujours le centre de beaucoup de choses. Lorsqu'on a demandé comment serait l'état de Jakarta après sa libération du statut IKN, il a de nouveau déclaré que Jakarta serait toujours construite. En tant que gouverneur, selon Anies, pour le reste de son mandat, qui se terminera en octobre 2022, il se concentrera sur l'achèvement de l'ensemble de son travail jusqu'à la fin de son mandat. Auparavant, le président Joko Widodo avait annoncé qu'une zone de la province du Kalimantan de l'Est sera la nouvelle capitale de l'État après Jakarta, et cela avait même été ratifié par la DPR par la loi IKN. Le gouvernement indonésien par le ministère des Transports, en collaboration avec le gouvernement sud-coréen, par le Fonds de coopération pour le développement économique, ou EDCF, met en œuvre le programme de développement et de remplacement des installations d'assistance à la navigation maritime, ou en indonésien Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, abrégé en SBNP en Indonésie. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, s'est félicité de cette collaboration qui, espérait-on, augmenterait la fiabilité du SBNP ainsi que la sûreté et la sécurité de la navigation dans les eaux indonésiennes. C'est ce qu'a déclaré Budi Karya Sumadi dans sa déclaration à Jakarta samedi. Budi Karya a expliqué que la construction et le remplacement du SBNP comprenaient 8 tours de balise et 95 unités de balise réparties sur 20 districts de navigation à travers l'Indonésie. Il a déclaré que la mise en œuvre des travaux a été réalisée sur une période de 34 mois, de 2022 à 2024, avec une valeur de coopération d'environ 7,04 millions de dollars américains. L'ambassadeur indonésien à La Haye, Mayer Fass, a confirmé l'engagement des représentants du RI aux Pays-Bas pour soutenir les citoyens indonésiens qui étaient des hommes d'affaires aux Pays-Bas, en particulier des femmes de micro, petites et moyennes entreprises. C'était dit par l'ambassadeur Mayer Fass au séminaire en ligne intitulé « Femmes indonésiennes inspirantes Pays-Bas, l'entrée principale de l'Europe » qui a eu lieu le samedi soir à Jakarta. À cette occasion, Mayer Fass a déclaré que les femmes ont eu un rôle très important dans divers domaines, notamment dans les efforts pour gérer la pandémie et les efforts déployés pour le recouvrement de l'économie touchée par COVID-19. Il a également déclaré « Responsabiliser des femmes dans le secteur économique aurait un impact très important sur les femmes et l'économie dans son ensemble. » Aucune exception pour la diaspora indonésienne aux Pays-Bas, qui est un acteur d'entreprise pour femmes. Un séisme de magnitude 6,2 a secoué l'Alaska en Alaska vendredi à 20h17 heure locale ou samedi à 12h17 de l'Indonésie occidentale. Selon un rapport de Reuters, l'épicentre du tremblement de terre en Alaska de l'Université d'Alaska Fairbanks a déclaré que le tremblement de terre avait frappé le sud du Alaska en Alaska, un important port de pêche de 4700 habitants. Le Service géologique des États-Unis, ou SGS, qui a enregistré un séisme de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter, a déclaré qu'il avait frappé à 74 km ou 46 milles au sud de l'Alaska à une profondeur de 3 km ou 2 milles. Le système d'alerte au tsunami dans le Pacifique des États-Unis a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'alerte au tsunami après le tremblement de terre. Les combats continuent de faire rage entre le groupe ISIS et les forces kurdes en Syrie. La fusillade de samedi est entrée le troisième jour après que ISIS a attaqué une prison détenant leurs camarades. La violence a jusqu'à présent fait plus de 70 morts. Rapporté par l'agence de presse AFP samedi, l'attaque contre la prison de Ghawiran dans la ville de Hasakeh a été l'une des plus grandes attaques menées par ISIS depuis que leur califat a été déclaré vaincu en Syrie il y a près de 3 ans. Au moins 28 membres des forces de sécurité kurdes, 5 civils et 45 membres d'ISIS ont été tués dans les violences. Cela a été déclaré par le chef de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman, un observateur de la guerre syrienne basé en Angleterre. Le groupe s'appuie sur un réseau de sources à l'intérieur de la Syrie pour ces informations. Bureau de l'attaché de l'éducation et de la culture avec la fonction d'information sociale et culturelle de l'ambassade indonésienne à Canberra encourage l'internationalisation de l'indonésien en organisant une réunion de coordination avec la salle de la langue et la culture indonésienne en Australie. L'attaché de l'éducation et de la culture de la République d'Indonésie à Canberra, Muhammad Najib, dans son communiqué de presse samedi, a déclaré qu'il ferait le maximum dans la promotion de l'indonésien en Australie. Selon lui, à nouveau populaire l'indonésien en Australie est un défi au milieu de concurrence intense avec d'autres langues asiatiques comme mandarin et japon. Cependant, il soutient pleinement l'internationalisation de l'indonésien et est optimiste que les efforts peuvent être effectués et que la langue et les salles culturelles indonésiennes en Australie peuvent jouer un rôle de moto de conduite. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le ministère du Commerce s'engage à maintenir la dynamique de croissance des exportations en 2022 ». Le ministre du Commerce, Mohamed Lutfi, a souligné que le ministère du Commerce s'est engagé à toujours maintenir l'élan de croissance des exportations et à contrôler l'inflation alimentaire volatile en 2022 grâce à la stabilisation des prix des denrées de base. Il prendra un certain nombre de mesures stratégiques pour que la reprise des performances commerciales se poursuive. Cela a été transmis par Mohamed Lutfi lors de la conférence de presse de perspectives commerciales 2022 qui s'est tenue virtuellement mardi dernier. Selon lui, on doit maintenir la dynamique de croissance des exportations étant donné que les performances des exportations de l'Indonésie en 2021, qui se composent d'exportations de pétrole et de gaz et d'exportations non pétrolières et gazières, ont battu le record le plus élevé de l'histoire avec une valeur de 231,54 milliards de dollars. Ce montant dépasse même la valeur d'exportation la plus élevée de l'Indonésie enregistrée en 2011, soit 203,50 milliards de dollars. Lutfi a ajouté que la valeur des exportations de 2021, qui est devenue un nouveau record, était dominée par les produits manufacturés. Ces produits sont les CPO et ses dérivés, l'acier, les produits électroniques, ainsi que les véhicules automobiles et leurs pièces détachées. En outre, Lutfi a également déclaré que le ministère du Commerce maintiendrait toujours l'élan de la croissance des exportations en 2022. Un certain nombre de défis qui sont la principale préoccupation de Lutfi sont la réduction de la politique, les barrières logistiques mondiales, la crise énergétique et les stratégies pour faire face à la pandémie de COVID-19. Il a déclaré que l'Indonésie prêtait attention à la politique de réduction progressive des États-Unis. De plus, on espère que la résolution des perturbations logistiques mondiales sera meilleure en 2022. Selon lui, le gouvernement prépare également un certain nombre de mesures stratégiques pour surmonter la crise énergétique de l'économie mondiale et continuer à faire des efforts pour contrôler la pandémie de COVID-19. On doit franchir cette étape pour stimuler les performances commerciales et maintenir la dynamique de croissance des exportations. Entre-temps, le président général de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, Arshad Rashid, a déclaré que l'aspect politique ainsi que les réformes structurelles qui sont mises en œuvre sont très utiles. En outre, la loi sur la création d'emplois créera davantage d'investissements et augmentera la facilité de faire des affaires pour les micro, petites et moyennes entreprises. Selon lui, en 2022, ce qu'il faut améliorer ensemble, c'est l'absorption du travail. En termes d'investissement, l'emploi a été enregistré à 5,9% sur une base annuelle. Donc, il y a encore des devoirs comment absorber de manière optimale le travail. En outre, il a également rappelé de maximiser les opportunités pouvant être saisies du côté de la logistique.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 23 janvier. On commence par l'incident du 23 janvier 1942, la journée patriotique de Gorontalo. Le jour de la proclamation de Gorontalo est un moment historique pour le peuple de Gorontalo dans la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie. Cette proclamation a été réalisée 3 ans plus tôt que la proclamation de l'indépendance indonésienne à Jakarta en 1945 par Soekarno et Mohammad Hatta. La proclamation de Gorontalo a été un élan pour les combattants de la liberté qui préparaient à l'époque une résistance diplomatique au pouvoir de la guerre en s'emparant de l'indépendance des mains des colonialistes hollandaises. Nani Wartabone a également lu le texte de la proclamation de l'indépendance indonésienne à Gorontalo lors de cet événement historique. Nani Wartabone n'était pas le camarade de Soekarno dans la lutte pour libérer l'Indonésie des mains des envahisseurs. Le 23 janvier 1947, la naissance de la première femme présidente indonésienne. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, ou généralement connue sous le nom de Megawati Soekarno Putri, communément appelée Mbak Mega, est née à Yogyakarta le 23 janvier 1947. Megawati a été la première femme présidente d'Indonésie et la fille du premier président indonésien Soekarno, qui a ensuite suivi les traces de son père en tant que 5e président de l'Indonésie du 23 juillet 2001 au 20 octobre 2004. En plus d'être la première femme présidente d'Indonésie, Megawati est également présidente générale du Parti démocratique indonésien de lutte, ou en indonésien Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ou abrégé en PDIP. Le 23 janvier 1950, le coup d'État de l'APRA à Bandung. L'incident du coup d'État des forces armées de Ratu Adil, ou en indonésien Angkatan Perang Ratu Adil, ou abrégé en APRA, était un incident survenu le 23 janvier 1950, au cours duquel le groupe de milices des forces armées de Ratu Adil, ou APRA. Ce groupe est sous la direction de l'ancien capitaine de CNIL, Raymond Oesterling. Ils sont entrés dans la ville de Bandung et ont tué tous ceux qui portaient des uniformes TNI qu'ils rencontraient. Cette action de foule avait été planifiée plusieurs mois à l'avance par Westerling et était même connue de plus hauts dirigeants de l'armée néerlandaise. 94 membres du TNI sont morts dans le massacre, tandis que du côté de l'APRA, personne n'a été blessé. En raison du coup d'état de l'APRA, la ville de Bandung a été temporairement occupée par l'armée de l'APRA. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Getar asmara pun pudar di dalam dada, dan di antara kita telah tak ada rasa saling seia sekata. Hari ini atau esok lusa kita akan berpisah untuk selama-lamanya. Agar takkan lagi ku rasa kaderita hidup bersama.
Chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici donc mon Indonésie.
Mon Indonésie d'aujourd'hui intitulée « L'Indonésie prépare la discrétion de la quarantaine pour les sportifs ». Le ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré qu'il apporterait immédiatement une proposition relative à la discrétion ou à la dispense de quarantaine pour les sportifs étrangers lors d'une réunion restreinte avec le président Joko Widodo. Le ministre Zainuddin Amali, lors d'une conférence de presse virtuelle mercredi, a déclaré que la suggestion d'une quarantaine discrétionnaire pour les sportifs est apparue lors d'une réunion conjointe avec le président du comité olympique indonésien UKOI, Raja Sabta Oktohari, des représentants du ministère de la Santé et l'Agence nationale de gestion des catastrophes BNPB à Jakarta. Le ministère soutient la proposition, mais il doit d'abord la communiquer aux parties concernées avant qu'une base politique soit établie. Le comité olympique indonésien avait précédemment proposé une discrétion ou une dispense de mise en quarantaine des sportifs étrangers après avoir entendu les expériences et les contributions des fédérations nationales qui avaient des difficultés à organiser des tournois internationaux en Indonésie en raison de la durée de la quarantaine. Il en va de même pour les athlètes, les entraîneurs et les officiels qui ont un accès limité à l'entraînement après des essais à l'étranger. La durée de la période de quarantaine est également considérée comme difficile pour les représentants d'organisations sportives internationales qui envisagent de visiter l'Indonésie avant d'examiner l'état de préparation à l'organisation d'événements individuels ou multi-événements à l'échelle internationale. Selon Raja Sabta, pour surmonter la longue période de quarantaine en dehors de la discrétion, le système de bulle peut également être utilisé. En effet, en 2022, il y aura de nombreuses compétitions internationales et événements multisports. Auparavant, le gouvernement avait confirmé plus tôt cette année qu'il n'y avait plus de discrétion de quarantaine pour les voyageurs étrangers. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'investissement, Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que la politique de quarantaine se référerait aux instructions du ministre de l'Intérieur en vigueur. Le ministre Luhut a souligné qu'il ne pouvait pas donner plus de pouvoir discrétionnaire car il s'est contenté de se référer aux instructions existantes du ministre de l'Intérieur. Le président Joko Widodo a également rappelé que la clé est d'être discipliné avec les protocoles de santé et de suivre les étapes de la lutte contre le virus pour réduire la propagation. Pour cette raison, le gouvernement a également décidé d'imposer une quarantaine de 10 jours et 7 jours. Cependant, la politique de quarantaine dépend du pays d'origine du voyageur étranger. C'est tout mon Indonésie.
De Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Takdirku. lepasmu ku cium hingga menaklukkan hatiku.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, la cascade Blawan est un site touristique de Java de l'Est situé dans la zone autour du cratère Ijen Banyuwangi. Cette zone de cascade est précisément située dans le village de Kalianyar, sous-district de Sempol, Bondowoso, Surabaya. La cascade Blawan, d'une hauteur d'environ 30 mètres, est un écoulement de la rivière Banyupahit et des eaux d'infiltration du lac de cratère Ijen. L'eau est de couleur jaunâtre en raison de la forte teneur en soufre. À cet endroit, vous entendrez le rugissement du bruit d'une cascade qui se précipite car la cascade de Blawan est entourée de falaises qui entourent la zone de sorte que le son de la cascade résonne. En raison de l'existence de cette haute falaise, on ne pouvait pas voir la cascade de Blawan de tous les côtés, sauf uniquement du côté ouest. La particularité de cette cascade de Blawan est que l'eau ne tombe pas à la surface de la terre, mais pénètre directement dans les entrailles de la terre. Elle apparaît dans la région de Sembagu Situ Bondo, puis se jette dans la mer de Java. Chers auditeurs, l'emplacement de la cascade Blawan est facile à visiter, en particulier depuis le port de Ketapang, Banyuwangi. C'est la distance la plus proche de la cascade. Si vous commencez votre voyage depuis l'aéroport de Surabaya ou Juanda, il vous faudra environ 7 heures pour aller à la moto ou en voiture privée. Après être rentré et avoir payé le ticket au guichet, vous devez encore marcher environ 100 mètres. La route vers la cascade de Blawan est très difficile avec la montée et la descente des escaliers entre deux falaises. Chers auditeurs, le débit qui est très lourd rendant l'atmosphère autour de la cascade très tonitruante. La verdure luxuriante rend le paysage autour de la cascade de Blawan très beau. Il y a aussi une source d'eau chaude qui contient du soufre qui est encore naturellement préservé et généralement de nombreux visiteurs s'y trempent les pieds. Bon, chers auditeurs, si la pandémie est terminée, programmez vos vacances en Indonésie et plus particulièrement à Java de l'Est et visitez ce lieu touristique situé autour du cratère de Ijen. Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique l'Indonésie en couleur, intitulée Les déchets d'ananas deviennent le tissage de la culture locale. Les étudiants du programme d'études du système d'information comptable de l'Université Bina Sarana Informatica a créé avec succès une idée d'entreprise d'utiliser des déchets d'ananas deviennent le tissage de la culture locale typique de l'Occident Kalimantan. L'idée est décrite dans le concours de socio-entrepreneuriat de la Sharia pour les jeunes, qui est une concurrence pour les étudiants qui possèdent des idées d'entreprises innovantes dans le secteur de l'agriculture, de la nourriture, de la mode, de la nouvelle énergie en appliquant des valeurs de la Sharia. Sukma, comme le président de l'équipe, a expliqué que la raison pour laquelle la création d'une idée d'entreprise de l'utilisation de déchets d'ananas est transformée en tissage, parce qu'en regardant des plantations d'ananas, donc les feuilles ont été jetées. Du problème des déchets dans la plantation d'ananas à Rasau Jaya, Pontianak, l'équipe cherche diverses références afin de traiter le gaspillage de feuilles d'ananas, dont l'une est une culture tissée. Les avantages obtenus par les agriculteurs et les tisserands sont très extraordinaires. En plus de soulever une culture de tissage, ce produit est en désaccord des agriculteurs d'ananas en utilisant le gaspillage de feuilles d'ananas. Dans le processus de traitement, le gaspillage de feuilles d'ananas sera trempé d'abord et ensuite frotté à l'aide de bambou afin qu'il obtienne des fibres de feuilles d'ananas. Et ensuite, la fibre de filetage de feuilles d'ananas, elle sera sèche. D'abord, elle sera utilisée par des artisans à tisser pour utiliser le fil comme tissu. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Tidak hati
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chokuyo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois-ci, je vais vous donner une chanson de Virza. Ne voulant pas se contenter de travailler à domicile, un chanteur dont le nom complet est Di Muhammad De Virza continue d'être productif. Virza a sorti une chanson intitulée « Bayangmu » le 19 mars 2021. Cette chanson parle d'une personne spéciale qui peut comprendre, interpréter le sens de la vie de Virza et il ne l'oubliera jamais. Cette chanson est une collection ou un résumé complet de toutes les œuvres de Virza en tant qu'auteur, compositeur et chanteur. Bon, chers auditeurs, voici la chanson de Virza dont le titre est « Bayangmu » ou en français « Ton ombre ». Bonne écoute.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci d'avoir écouté notre émission. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.